Journal d'un écrivain, 1876, juin. Chapitre 1. La mort de George Sand. Et pourtant, ce n'est qu'après avoir lu la nouvelle de cette mort que j'ai compris toute la place que ce nom avait tenue dans ma vie mentale, tout l'enthousiasme que l'écrivain-poète avait jadis excité en moi, toutes les jouissances d'art, tout le bonheur intellectuel dont je lui étais redevable. J'écris chacun de ces mots de propos délibérés, parce que tout cela est de la vérité littérale. George Sand était une de nos contemporaines. Quand je dis « nos », j'entends bien « à nous ». Une vraie idéaliste des années 30 et 40. Dans notre siècle, puissant, superbe et cependant si malade, épris de l'idéalité la plus nuageuse, travaillé des désirs les plus irréalisables, c'est un de ces noms qui, venus de là-bas, du pays des miracles saints, ont fait naître chez nous, dans notre Russie, toujours en mal de devenir, tant de pensées, de rêves, de forts, nobles et saints enthousiasmes, tant de vitale activité psychique et de chères convictions. Et nous n'avons pas à nous en plaindre. En glorifiant, en vénérant de tels noms, les Russes ont servi et servent la logique de leur destinée. Qu'on ne s'étonne pas de mes paroles, surtout au sujet de George Sand, qui jusqu'à présent peut être contesté, qui est à moitié, sinon presque totalement oublié chez nous. Elle a fait en son temps son œuvre dans notre pays. Qui donc s'associera à ses compatriotes pour dire un mot sur sa tombe, si ce n'est nous? Nous, les compatriotes de tout le monde. Car enfin, nous autres, Russes, nous avons tout au moins deux patries. La Russie et l'Europe, même lorsque nous nous intitulons slavophiles. Qu'on ne m'en veuille pas. Il n'y a pas à discuter, cela est. Notre mission, et les Russes commencent à en avoir conscience, est grande entre les grandes missions. Elle doit être universellement humaine. Elle doit être consacrée au service de l'humanité, non pas seulement de la Russie, non pas seulement du monde slave, du panslavisme, mais au service de l'humanité entière. Réfléchissez, et vous conviendrez que les slavophiles ont reconnu la même chose. Et voilà pourquoi ils nous exhortent tous à nous montrer des Russes plus nettement, plus scrupuleusement russes, plus conscients de notre responsabilité de Russes. Car ils comprennent que, précisément, l'adoption des intérêts intellectuels de toute l'humanité est la mission caractéristique du Russe. Tout cela, d'ailleurs, exigerait encore bien des explications. Il faut bien dire que se dévouer à une idée universellement humaine et vagabonder à l'aventure par toute l'Europe, après avoir quitté la patrie à la légère, par suite de quelque hautain caprice, sont deux choses absolument opposées, quoiqu'on les ait confondues jusqu'à présent. Mais beaucoup de ce que nous avons pris à l'Europe et apporté chez nous, nous ne l'avons pas tout uniquement copié comme de serviles imitateurs, ainsi que le voudraient les Potouguines. Nous l'avons assimilé à notre organisme, à notre chair et à notre sang. Il nous est même arrivé de souffrir de maladies morales volontairement importées chez nous, tout comme en pâtissaient les peuples d'Occident, chez lesquels ces maux étaient endémiques. Les Européens ne voudront croire cela à aucun prix. Ils ne nous connaissent pas. Et jusqu'à présent, c'est peut-être tant mieux. L'enquête nécessaire, dont le résultat plus tard étonnera le monde, ne s'en fera que plus paisiblement, sans trouble et sans secousse. Et le résultat de cette enquête, on peut déjà l'entrevoir assez clairement, au moins en partie, par nos relations avec les littératures des autres nations. Leurs poètes, à elles, sont aussi familiers à la plupart de nos hommes cultivés qu'aux lecteurs occidentaux. J'affirme et je répète que chaque poète, penseur ou philanthrope européen est toujours compris et accepté en Russie, plus complètement et plus intimement que partout au monde, sinon dans son propre pays. Shakespeare, Byron, Walter Scott, Dickens sont plus connus des Russes que par exemple des Allemands, bien que, des œuvres de ces écrivains, ils ne se vendent pas la dixième partie de ce qui se vend en Allemagne, pays par excellence des liseurs. La Convention de 93, en envoyant un diplôme de citoyen au poète allemand Schiller, l'ami de l'humanité, a certes accompli un bel acte, imposant et même prophétique. Mais elle ne soupçonnait même pas qu'à l'autre bout de l'Europe, dans la Russie barbare, l'œuvre de ce même Schiller a été bien plus répandue, naturalisée en quelque sorte, qu'en France, non seulement à l'époque, mais encore plus tard, au cours de tout ce siècle. Schiller, citoyen français et ami de l'humanité, n'a été connu en France que des professeurs de littérature, et encore pas de tous. D'une élite seulement. Chez nous, il a profondément influé sur l'âme russe, avec Joukovski, et il y a laissé des traces de son influence. Il a marqué une période dans les annales de notre développement intellectuel. Cette participation du russe aux apports de la littérature universelle est un phénomène que l'on ne constate presque jamais au même degré chez les hommes des autres races, à quelque période que ce soit de l'histoire du monde. Et si cette aptitude constitue vraiment une particularité nationale, russe, bien à nous, quel patrimoine ombrageux, quel chauvinisme s'arrogera le droit de se révolter contre un pareil phénomène, et ne voudra au contraire y voir la plus belle promesse pour nos destinées futures. Oh, certes, il se trouvera des gens pour sourire de l'importance que j'attribue à l'action de George Sand. Mais les moqueurs auront tort. Bien du temps s'est écoulé. George Sand elle-même est morte, vieille, septuagénaire, après avoir peut-être longtemps survécu à sa gloire. Mais tout ce qui nous fit sentir, lors des premiers débuts du poète, que retentissait une parole nouvelle, tout ce qui, dans son œuvre, était universellement humain, tout cela eut immédiatement son écho chez nous, dans notre Russie. Nous en ressentîmes une impression intense et profonde qui ne s'est pas dissipée et qui prouve que tout poète, tout novateur européen, toute pensée neuve et forte venue de l'Occident devient fatalement une force russe. D'ailleurs, je n'ai aucune intention d'écrire un article de critique sur George Sand. Je veux seulement dire quelques paroles d'adieu sur sa tombe, encore fraîche. Les débuts littéraires de George Sand coïncident avec les années de ma première jeunesse. Je suis, à présent, heureux de penser qu'il y a déjà si longtemps de cela, car maintenant que plus de 30 ans se sont écoulés, on peut parler presque en toute franchise. Il convient de faire observer qu'alors, la plupart des gouvernements européens ne toléraient chez eux rien de la littérature étrangère, rien sinon les romans. Tout le reste, surtout ce qui venait de France, était sévèrement consigné à la frontière. Oh, certes, bien souvent, on ne savait pas voir. Metternich lui-même ne savait pas plus voir que ses imitateurs. Et voilà comment des choses terribles ont pu passer. Tout Bielinski a bien passé. Mais en revanche, un peu plus tard, surtout vers la fin de cette période, on se mit, de peur de se tromper, à prohiber à peu près tout. Les romans pourtant trouvèrent grâce à toute époque, et dans ce pays, ce fut surtout quand il s'agit de romans de George Sand que nos gardiens furent aveugles. Rappelez-vous ces vers. Il sait par cœur les volumes de Thiers et de Rabot, et fougueux comme Mirabeau, il glorifie la liberté. Ces vers sont d'autant plus précieux qu'ils furent écrits par Denis Davydov, poète et bon russe. Mais si Denis Davydov a considéré Thiers comme dangereux, sans doute à cause de son histoire de la Révolution, et à rapprocher dans le poème cité son nom de celui d'un certain Rabot, il y avait alors un écrivain qui s'appelait ainsi et que du reste je ne connais guère. Nous pouvons être sûrs que l'on admettait officiellement bien peu d'œuvres d'auteurs étrangers alors en Russie. Et voici ce qui en résulta. Les idées nouvelles qui firent à l'époque irruption chez nous sous forme de romans n'étaient que plus dangereuses sous leurs vêtements de fantaisie, car Rabot n'aurait peut-être rencontré que peu d'amateurs, tandis que George Sand en trouva des milliers. Il faut donc faire encore remarquer ici que chez nous, depuis le siècle passé, et ce en dépit de tous les Magnitsky et les Librandi, on a toujours eu très vite connaissance de n'importe quel mouvement intellectuel de l'Europe. Et toute idée neuve était immédiatement transmise par nos hautes classes intellectuelles à la masse des hommes un tant soit peu doués de pensée et de curiosité philosophique. C'est ce qui s'est produit à la suite du mouvement d'idées des années 30. Dès le début de cette période, les Russes ont été tout de suite au courant de l'immense évolution des littératures européennes. Des noms nouveaux d'orateurs, d'historiens, de tribuns, de professeurs furent promptement connus. Même, nous savions plus ou moins bien ce que présageait la dite évolution qui bouleversa surtout le domaine de l'art. Les romans en subirent une transformation toute particulière, que ceux de George Sand accusèrent plus que les autres. Il est vrai que Sankovski et Bulgarine mettaient le public en garde contre George Sand, même avant l'apparition des traductions russes de ses romans. On s'efforçait surtout d'épouvanter nos dames russes en leur révélant que George Sand portait des culottes. On tonnait contre son prétendu libertinage, on tentait de la ridiculiser. Sankovski, sans dire qu'il s'apprêtait à traduire ses romans dans sa propre revue, la bibliothèque de lecture, se mit à l'appeler, dans ses écrits, Madame Egor Sand, et l'on assure qu'il était parfaitement ravi de ce trait d'esprit. Plus tard, en l'année 48, Bulgarine, dans son Abeille du Nord, imprima, sur le compte de George Sand, qu'elle se grisait tous les jours en compagnie de Pierre Leroux, dans des caboulots de barrière, et qu'elle prenait part aux soirées athéniennes données au ministère de l'Intérieur par ce brigand de Ledru-Rollin. J'ai lu ces choses moi-même et m'en souviens fort bien. Mais alors, en 48, George Sand était déjà connu de tout le public lettré, et personne n'a cru Bulgarine. Les premières œuvres d'elle traduites en russe parurent dans les années 30. Je regrette de ne pas me rappeler quel fut le premier de ces romans dont une version fut donnée dans notre langue. En tout cas, quel qu'il fût, il dut produire une impression énorme. Je crois que, comme moi, qui étais encore un adolescent, tout le monde fut frappé par la belle et chaste pureté des types mis en scène, par la hauteur de l'idéal de l'écrivain, par la tenue des récits. Et l'on voulait qu'une pareille femme porta des culottes et se livra au libertinage. J'avais 16 ans, je crois, quand je lus une de ses œuvres de début, l'une de ses plus charmantes productions. Je m'en souviens bien. J'en eus la fièvre toute la nuit qui suivit ma lecture. Je ne crois pas me tromper en affirmant que George Sand prit, pour nous, presque immédiatement, la première place dans les rangs des écrivains nouveaux, dont la jeune gloire retentit alors par toute l'Europe. Dickens lui-même, qui parut chez nous presque en même temps, passait après elle dans l'admiration de notre public. Je ne parle pas de Balzac, qui fut connu avant elle et qui publia dans les années 30 des œuvres comme Eugénie Grandet et Le Père Goriot. De Balzac, pour lequel Bielinski fut si injuste en méconnaissant la grande place qu'il tenait dans la littérature française. D'ailleurs, je ne prétends pas donner ici la moindre appréciation critique. Je me contente de rappeler le goût de la masse des lecteurs russes d'alors et l'impression produite sur eux. Le point essentiel est que ces lecteurs pouvaient se familiariser, dans les romans étrangers, avec toutes les idées nouvelles contre lesquelles on les protégeait si jalousement. Toujours est-il que vers les années 40, le gros public russe lui-même savait plus ou moins bien que George Sand est l'un des plus éclatants, des plus fiers, des plus probes représentants de la nouvelle génération européenne de cette époque, de ceux qui ont nié le plus énergiquement ces fameuses acquisitions positives par lesquelles la sanglante révolution française, ou plutôt européenne, de la fin du siècle passé, a complété son œuvre. Après elle, après Napoléon Ier, on a tenté de révéler, par le livre, de nouvelles aspirations et tout un idéal nouveau. Les esprits d'avant-garde ont vite compris que ce n'était pas telle ou telle modification apparente d'un réel despotisme qui pouvait se concilier avec les besoins d'une ère neuve, que « l'ôte-toi de là que je m'y mette » des nouveaux maîtres ne résolvaient rien, que les récents vainqueurs du monde, les bourgeois, étaient peut-être pires que les nobles, ces despotes de la veille, et que la devise « liberté, égalité, fraternité » n'est composée que de mots sonores. Ce n'est pas tout. Alors surgirent des doctrines qui prouvèrent que ces vocables éclatants ne concrétaient que des impossibilités. Les vainqueurs ne prononcèrent bientôt plus, ou mieux, ne se rappelèrent plus les trois mots sacramentels qu'avec une sorte d'ironie. La science elle-même, dans la personne de quelques-uns de ses plus brillants adeptes, les économistes, qui semblèrent alors apporter des formules inédites, vint au secours de la raillerie et condamna nettement les trois mots utopiques pour lesquels tant de sang avait été versé. Ainsi, à côté des vainqueurs exultants, apparurent de tristes et mornes visages qui inquiétèrent les triomphateurs. C'est alors que tout à coup se fit entendre une parole vraiment nouvelle, que des espoirs nouveaux naquirent. Des hommes vinrent qui proclamèrent que c'était à tort et injustement que l'on avait interrompu l'œuvre de rénovation, qu'on n'avait abouti à rien par un changement de figuration politique, que l'œuvre de rajeunissement social devait s'attaquer aux racines mêmes de la société. Oh, certes, on alla parfois trop loin dans les conclusions. Des théories pernicieuses et monstrueuses se firent jour. Mais l'essentiel est que, de nouveau, brilla l'espoir et que la croyance recommença à germer. L'histoire de ce mouvement est connue. Il dure encore aujourd'hui et ne semble avoir aucune tendance à s'arrêter. Je ne me propose nullement de parler ici pour ou contre lui. Je tiens seulement à préciser la part d'action de George Sand dans ce mouvement. Nous la trouverons dès les débuts de l'écrivain. Alors, l'Europe, en la lisant, disait que ses prédications avaient pour but de conquérir pour la femme une nouvelle situation dans la société et qu'elle prophétisait les futurs droits de « l'épouse libre ». L'expression est de Sankowski. Mais cela n'était pas tout à fait exact, puisqu'elle ne prêchait pas seulement en faveur de la femme et n'imaginait aucune espèce d'épouse libre. George Sand s'associait à tout mouvement en avant et non pas à une campagne uniquement destinée à faire triompher les droits de la femme. Il est évident que, femme elle-même, elle peignait plus volontiers des héroïnes que des héros. Il est non moins clair que les femmes de l'univers entier doivent à présent porter le deuil de George Sand, parce que l'un des plus nobles représentants du sexe féminin est mort, parce qu'elle fut une femme d'une force d'esprit et d'un talent presque inouï. Son nom, dès à présent, devient historique, et c'est un nom que l'on n'a pas le droit d'oublier, qui ne disparaîtra jamais de la mémoire européenne. Quant à ces héroïnes, je répète que je n'avais que 16 ans quand je fis leur connaissance. J'étais tout troublé par les jugements contradictoires que l'on portait sur leur créatrice. Quelques-unes, parmi ces héroïnes, ont incarné un type d'une telle pureté morale qu'il est impossible de ne pas se figurer que le poète les a créées à l'image de son âme. Une âme très exigeante au point de vue de la beauté morale, une âme croyante, éprise de devoir et de grandeur, consciente du beau suprême et infiniment capable de patience, de justice et de pitié. Il est vrai qu'à côté de la pitié, de la patience, de la claire intelligence du devoir, on entrevoyait chez l'écrivain une très haute fierté, un besoin de revendication, voire des exigences. Mais cette fierté elle-même était admirable, car elle dérivait de principes élevés sans lesquels l'humanité ne saurait vivre en beauté. Cette fierté n'était pas le mépris quand même du voisin auquel on dit « Je suis meilleur que toi, tu ne me vaudras jamais ». Elle n'était que le hautain refus de pactiser avec le mensonge et le vice, sans que, je le répète, ce refus signifiât le rejet de tout sentiment de pitié ou de pardon. Cette fierté s'imposait aussi d'immenses devoirs. Les héroïnes de George Sand avaient soif de sacrifices, ne rêvaient que grandes et belles actions. Ce qui me plaisait surtout dans ses premières œuvres, c'était quelques types de jeunes filles de ces contes dits vénitiens, types dont le dernier spécimen figure dans ce génial roman intitulé « Jeanne », qui résout de façon lumineuse la question historique de Jeanne d'Arc. Dans cette œuvre, George Sand ressuscite pour nous, dans la personne d'une jeune paysanne quelconque, la figure de l'héroïne française, et rend en quelque sorte palpable la vraisemblance de tout un cycle historique admirable. C'était une tâche digne de la grande évocatrice, car, seule de tous les poètes de son époque, elle porta dans son âme un type idéal aussi pur de la jeune fille innocente, puissante par son innocence même. Tous ces types de jeunes filles se retrouvent plus ou moins modifiés dans des œuvres postérieures. L'un des plus remarquables est étudié dans la magnifique nouvelle « La Marquise ». George Sand nous y présente le caractère d'une jeune femme, loyale et honnête, mais inexpérimentée, douée de cette chasteté fière qui ne craint rien et ne peut se souiller même au contact de la corruption. Elle va droit au sacrifice, qu'elle croit qu'on attend d'elle, avec une abnégation qui brave tous les périls. Ce qu'elle rencontre sur sa route ne l'intimide en rien, au contraire. Sa bravoure s'en exalte. Ce n'est que dans le danger que son jeune cœur prend conscience de toutes ses forces. Son énergie s'en exaspère. Elle découvre des chemins et des horizons nouveaux à son âme, qui s'ignorait encore, mais qui était fraîche et forte, non encore salie par des concessions à la vie. Avec cela, la forme du poème est irréprochable et charmante. George Sand aimait les dénouements heureux, le triomphe de l'innocence, de la franchise, de la jeune et simple bravoure. Était-ce là ce qui pouvait troubler la société, faire naître des doutes et des craintes? Bien au contraire, les pères et les mères les plus rigides permettaient à leur famille la lecture de George Sand et ne cessaient de s'étonner de l'avoir dénigré de tous côtés. Mais alors éclatèrent des protestations. On mettait le public en garde contre ces fières revendications féminines, contre cette témérité de pousser l'innocence à la lutte contre le mal. On pouvait découvrir là, disait-on, les indices du poison du féminisme. Peut-être avait-on raison en parlant de poison. Il y avait peut-être là un poison qui s'élaborait, mais on n'a jamais été d'accord sur les effets de ce poison. On nous affirme, est-ce bien vrai, que toutes ces questions sont à présent résolues? Il nous faut faire remarquer à ce propos qu'au cours des années 40, la gloire de George Sand était si haute et la foi que l'on professait pour son génie si complète que nous tous, ses contemporains, nous attendions d'elle quelque chose d'immense, d'inouï dans un avenir prochain, voire des solutions définitives. Ses espoirs ne se réalisèrent pas. Il semble que, dès cette époque, c'est-à-dire vers la fin des années 40, George Sand avait dit tout ce qu'il était dans sa mission de dire, et maintenant, sur sa tombe à peine refermée, nous pouvons prononcer des paroles définitives. George Sand n'est pas un penseur, mais elle est de ces sibylles qui ont discerné dans le futur une humanité plus heureuse. Et si, toute sa vie, elle proclame la possibilité pour l'humanité d'atteindre l'idéal, c'est qu'elle-même était armée pour y atteindre. Elle est morte déiste, croyant fermement en Dieu et à l'immortalité. Mais c'est trop peu dire, et j'estime qu'elle a été, parmi les écrivains de son temps, la chrétienne par excellence. Non qu'elle crût à la divinité du Christ. Cette Française n'eût pas admis que la glorification du Christ eût en soi assez d'efficacité pour conférer le salut, concept qui est à la base de la foi orthodoxe. Mais la contradiction est ici dans la terminologie plus que dans les sens, et je maintiens que George Sand aura été une des grandes sectatrices du Christ. Son socialisme, ses convictions, ses espoirs, elle les a fondés sur sa foi en la perfectibilité morale de l'homme. Elle avait en effet de la divinité humaine une haute notion, qu'elle exaltait de livre en livre, et ainsi s'associait-elle par la pensée et par le sentiment à l'une des idées fondamentales du christianisme. Je veux dire au principe de libre arbitre et de responsabilité. D'où sa nette conception du devoir et de nos obligations morales. Peut-être, parmi les penseurs ou écrivains français, ses contemporains, n'y en a-t-il pas un qui ait compris aussi fortement que ce n'est pas de pain seulement que l'homme a besoin pour vivre. Quant à sa fierté, à ses exigeantes revendications, je répète qu'elle n'excluait jamais la pitié, le pardon de l'offense, voire une patience sans bornes qu'elle avait trouvée dans sa pitié même pour l'offenseur. George Sand a maintes fois célébré ses vertus dans ses œuvres et a su les incarner dans des types. On a écrit d'elle que, mère excellente, elle a travaillé assidûment jusqu'à ses derniers jours et que, amie sincère des paysans de son village, elle fut aimée d'eux avec ferveur. Elle tirait, paraît-il, quelque satisfaction d'amour-propre de son origine aristocratique. Par sa mère, elle se rattachait à la maison de Saxe. Mais, bien plus qu'à ses naïfs prestiges, elle était sensible, il faut le dire, à cette aristocratie vraie dont le seul apanage est la supériorité d'âme. Elle n'eût su ne pas aimer ce qui était grand, mais elle était peu apte à percevoir les éléments d'intérêt que recèlent les choses mesquines. En cela, elle se montrait peut-être trop fière. Et il est bien vrai qu'elle aimait peu à faire figurer dans ses romans des êtres humiliés, justes mais passifs, innocents mais maltraités, comme on en voit dans presque toutes les œuvres de ce grand chrétien de Dickens. Loin de là, elle campait fièrement ses héroïnes et en faisait presque des reines. Elle aimait cette attitude de ses personnages, et il convient de remarquer cette particularité. Elle est caractéristique. Chapitre 2. Mon paradoxe. Nous voici de nouveau menacés d'un choc avec l'Europe. Ce n'est pas encore la guerre. On est pour l'instant bien peu disposé, ou plutôt disons que la Russie est bien peu disposée à la guerre. C'est toujours cette sempiternelle question d'Orient qui revient à l'horizon. Une fois de plus, l'Europe regarde la Russie avec méfiance. Mais pourquoi essayerions-nous de faire la chasse à la confiance en Europe ? Quand, à quelle époque, l'Europe nous a-t-elle épargné les soupçons ? Peut-elle seulement ne pas douter de nous et penser à nous sans un sentiment hostile ? Certes, son opinion changera un jour ou l'autre. Elle en viendra à nous comprendre. Et mon désir est de causer bientôt de cela longuement. Mais, en attendant, une question secondaire, une question à côté surgit dans mon esprit. une question à laquelle je serais anxieux de répondre. Il est très possible que personne ne soit de mon avis, mais il me semble que j'ai raison, au moins jusqu'à un certain point. J'ai dit qu'on ne nous aime pas en Europe, nous autres les Russes, et c'est un fait que personne ne désirera nier. On nous accuse surtout d'être des libéraux terribles et même des révolutionnaires. On a cru constater que nos sympathies allaient plutôt aux démolisseurs qu'aux conservateurs européens. C'est pour cela qu'on nous considère là-bas plutôt ironiquement, non sans une pointe de haine. On ne peut comprendre que nous nous posions en destructeurs de l'état social de nos voisins. On nous refuse positivement le droit de désapprouver ce qui se passe en Europe, parce qu'on nous regarde comme étrangers à la civilisation européenne. Ce qu'on voit en nous, c'est une bande de barbares, égarés en Europe, toujours heureuses quand il y a quelque chose à démantibuler pour le plaisir de démantibuler. Une horde de uns, toujours désireuses d'envahir la vieille Rome et d'en renverser les temples, sans concevoir la gravité du dommage causé. Il est vrai que les Russes, depuis longtemps, se révèlent d'intraitables libéraux. C'est même assez étrange. Quelqu'un s'est-il jamais demandé pourquoi il en était ainsi? Comment se fait-il que les 9/10 des Russes, civilisés à l'européenne, aient toujours soutenu, à l'étranger, les partis avancés, qui semblent parfois nier tout ce que nous regardons comme civilisation et comme culture? Il y a un abîme entre ce que Thiers, par exemple, regarde comme condamnable dans la civilisation et ce qu'en rejettent les partisans de la Commune de 1871. Nos Russes marcheraient plutôt avec les gens d'extrême gauche, bien qu'il y ait des exceptions. On trouvera parmi nous beaucoup moins de thiéristes que de communards. Notez que ces rouges ne sont pas les premiers venus. Ce sont parfois des gens de haute culture, voire des ministres. Mais les Européens ne s'arrêtent pas à leur civilisation, pour eux superficielle. « Grattez le russe, » disent-ils, « et vous trouverez le cosaque, le tartare. » Tout cela peut être d'une infinie justesse, mais voici ce qui me vient à l'esprit. Est-ce en tant que tartare que le russe a une préférence pour les démagogues? Est-ce en tant que sauvage destructeur? D'autres raisons ne l'ont-elles pas décidé? La question est assez sérieuse. Notre rôle de fenêtre ouverte sur l'Europe est fini. Il va se passer autre chose dont tout le monde a conscience. Tout le monde? Du moins ceux qui pensent quelquefois. Nous prévoyons que nous allons de nouveau trouver l'Europe sur notre chemin, et la rencontre aura plus d'importance que naguère. Est-ce la question d'Orient qui nous vaudra cela, ou quelque autre question imprévue? Qui le sait? Voilà pourquoi tout genre de conjecture, ou même de paradoxe, peut devenir intéressant aujourd'hui, parce que nous en aurons peut-être tiré une indication. N'est-il pas curieux que ce soit ces Russes, fiers d'être chez nous surnommés des Occidentaux, enragés de plaisanter durement les slavophiles, qui semblent s'allier plus vite que les autres aux adversaires de la société actuelle, à ces démolisseurs à l'extrême gauche? N'est-il pas surtout étonnant que cela ne surprenne personne en Russie et qu'il n'en ait même jamais été question? Ma réponse est prête. Je ne veux rien prouver. J'exposerai simplement mon opinion en ne développant que le fait seul. Il est impossible de rien prouver dans ces choses-là. Voici ce que je pense. Ne voyez-vous pas dans ce fait que les Occidentaux russes adhèrent plus volontiers au programme de l'extrême gauche, une protestation de l'âme russe anti-européenne à laquelle la culture étrangère a toujours été antipathique depuis les jours de Pierre le Grand? Telle est du moins ma façon de voir. Certainement, cette antipathie n'a été qu'instinctive. Mais ce qui est précieux à constater, c'est que le sentiment russe demeurait vivace. C'était inconsciemment que l'âme russe protestait, mais elle n'en réagissait pas moins. Bien entendu, on nous signifiera qu'il n'y a pas là de quoi se réjouir, et l'on affirmera de plus en plus que les protestataires sont des Huns, des barbares, des tartares, qui ne regimbent au nom d'aucun principe élevé. Mais tout bêtement parce qu'en 2 siècles, ils n'ont jamais su se rendre compte de la hauteur d'esprit européenne. Je veux bien accepter ce qui précède, tout en rejetant de toutes mes forces l'épithète de « tartare » appliquée à mes compatriotes. Il n'y a pas un Russe qui essaie de lutter contre l'œuvre de Pierre le Grand, qui blâme la fenêtre ouverte sur l'Europe et rêve avec regret à l'ancien Tsara moscovite. Du reste, la question n'est pas là. Il s'agit de savoir si tout ce que nous avons vu par la fameuse fenêtre était bon. Je crois que nous avons aperçu tant de choses mauvaises et nuisibles que le sentiment russe n'a cessé de s'en indigner. Et ce n'est pas à un point de vue tartare qu'il s'est révolté, mais bien parce qu'il gardait sans doute en lui quelque chose de supérieur à ce qu'il a distingué par la toujours mentionnée fenêtre. Il est clair que les Russes n'ont jamais protesté contre tout. Nous avons reçu de l'Europe des dons beaux et excellents qui ne nous ont pas laissés ingrats. Mais franchement, nous avions bien le droit de refuser au moins la moitié des présents offerts. Cependant, tout cela, je le répète, s'est passé de la façon la plus curieuse. Ce sont précisément nos plus déterminés occidentaux, les plus entichés de réformes à l'européenne, qui ont condamné le système social de l'Europe en affichant des opinions nuances extrême-gauche. Ils se sont révélés dès lors comme les Russes les plus fervents, comme les défenseurs de la Russie et de l'esprit russe. Ils nous riraient au nez du reste, ou prendraient peur si nous venions le leur affirmer. Il est évident qu'ils n'ont senti en eux aucune protestation consciente. Pendant 2 siècles, tout au contraire, ils se sont niés eux-mêmes, se jugeant indignes de tout respect. Ils ont même en cela réussi à étonner l'Europe. Mais en fin de compte, ce sont eux qui se sont montrés les vrais Russes. C'est sur ce point de vue tout personnel que j'appelle mon paradoxe. Bielinski, par exemple, homme d'une nature passionnément enthousiaste, fut l'un des premiers Russes qui applaudirent aux idées des socialistes européens, alors que ces derniers ne craignaient pas de renier déjà toute la civilisation européenne. Cependant, quand il s'agissait de littérature, il luttait de toutes ses forces contre les tendances slavophiles et persista dans cette lutte jusqu'au bout. Comme il eût été surpris alors si les slavophiles lui avaient dit que c'était lui le champion de la vérité russe, du tempérament russe, des principes russes. Et si on lui avait prouvé que c'était lui le vrai conservateur, quand, à un point de vue européen, il se faisait socialiste et révolutionnaire. Et il en était bien ainsi pourtant. Disons, pour être juste, qu'il y avait une grande erreur des deux côtés. Les occidentaux russes confondaient peut-être un peu trop la Russie avec l'Europe. En dénonçant les institutions de l'une, ils croyaient sans doute que le blâme rejaillirait sur l'autre. Toutefois, la Russie n'était pas l'Europe. Elle portait l'uniforme européen et rien de plus. Sous l'uniforme adopté, il y avait un être tout différent. Les slavophiles ne disaient pas autre chose. Ils voulaient démontrer que les occidentaux rêvaient l'assimilation de 2 éléments par trop dissemblables et que les conclusions applicables à l'Europe n'avaient aucune chance de s'adapter aux besoins de la Russie, surtout parce que les réformes demandées pour l'Europe existaient depuis longtemps en Russie, au moins en germe, en puissance, non point sous un déguisement révolutionnaire, mais telles qu'elles avaient été conçues d'après la doctrine du Christ. Ils nous invitaient à étudier la Russie d'abord, à apprendre à la connaître et à ne tirer des conclusions qu'ensuite. Mais qui pouvait alors savoir quelque chose de la Russie? Il est certain que les slavophiles étaient, sur ce sujet, moins ignorants que les Occidentaux. Mais ils allaient un peu à tâtons, guidés par leur seul instinct, du reste extraordinaire. Ce n'est que depuis 20 ans que nous avons pu apprendre quelque chose de précis sur la Russie. Mais il faut bien dire que l'étude ne fait que commencer, car dès que surgit une question générale, personne n'est plus du même avis. Et voici que la question d'Orient reparaît. Serons-nous capables de la résoudre d'une façon qui satisfasse tout le monde? Et c'est une grande et grave question, notre question nationale. Mais pourquoi irais-je chercher la question d'Orient? Pourquoi aborder pour l'instant un problème aussi grave? Considérons tout simplement des centaines, des milliers d'affaires intérieures d'intérêt journalier, courant. Que d'opinions indécises nous rencontrerons! Quelle incompétence de tous côtés! Voici que l'on prive la Russie de ses forêts. Propriétaires et moujiks les détruisent avec acharnement. On les vend pour le dixième de leur valeur, craignant sans doute que les acheteurs se fassent bientôt rares. Nos enfants n'auront pas atteint l'âge d'homme, que nos forêts auront diminué des 9/10. Qu'adviendra-t-il de cela? Peut-être la ruine. Et allez donc proposer quoi que ce soit pour tâcher d'arrêter la dévastation des forêts. Vous vous trouverez pris entre ceux qui invoqueront la nécessité d'État et ceux qui se plaindront qu'on veuille attenter au droit de la propriété. Il y aura là deux camps opposés, et l'on ne sait de quel côté pencheront les libéraux, qui veulent tout résoudre. N'y aura-t-il même pas plus de deux camps? Le débat risquera de s'éterniser. Quelqu'un appartenant à la fraction libérale encore à la mode a plaisamment affirmé qu'il n'y avait pas de mal sans bien, et que si l'on détruit les forêts, on y trouvera encore un avantage, à savoir que les punitions corporelles disparaîtront le jour où les tribunaux ruraux ne sauront plus avec quoi fouetter les moujiks et les paysannes coupables. Évidemment, c'est une consolation, mais il est difficile d'être encore bien rassuré. Le jour où nous manquerons de branchettes capables de faire office de verge, nous en importerons de l'étranger. Alors, voici que les Juifs deviennent propriétaires ruraux. Immédiatement, on clame et on écrit de tous côtés que les dits Juifs dévorent la glèbe de la Russie et qu'après avoir dépensé quelques capitaux pour se rendre acquéreurs des terres, ils épuisent ces terres d'un seul coup pour se rémunérer. Je vous conseille de dire la moindre chose à ce sujet. On criera aussitôt que vous violez le principe de liberté économique et d'égalité de droit civil. Mais de quelle égalité de droit s'agit-il ici? Il n'y a qu'une application du status in statu du Talmud. La terre ne sera pas seule à être épuisée. Le paysan en verra de dur, lui aussi. Tombera dans un esclavage bien pire que le précédent. Lui, qui, délivré des propriétaires terriens russes, tombera sous la coupe de possesseurs autrement dangereux, lesquels se seront déjà mis en goût en suçant le sang du paysan de la Russie occidentale, de personnages qui ne se contentent plus d'acheter des biens et des travailleurs, mais commencent à vouloir pensionner l'opinion libérale, non sans succès. Comment se fait-il que chez nous, il n'y ait pas un seul groupe d'accord sur la décision à prendre? Selon moi, cela ne provient pas de notre peu d'intelligence des affaires, mais bien de notre obstinée ignorance de la Russie, de son esprit, de son essence. Bien que depuis les démêlés de Bielinski et des slavophiles, 20 années se soient écoulées. Pourtant, l'étude de la Russie a progressé en ces 20 ans. Mais on nous apprend que, dans la même période, le sentiment russe a perdu de sa force. Quelle peut en être la cause? Mais alors, si l'opinion des slavophiles a semblé triompher à cette époque lointaine rien que par la véhémence de leurs sentiments russes, Bielinski les a bien aidés en leur victoire. Les slavophiles pourraient donc le considérer comme leur meilleur ami. Je répète qu'il y a eu un grand malentendu entre les deux parties. Ce ne sera donc pas pour rien qu'Apollon Grigoriev aura dit lui qui avait parfois quelque perspicacité. Si Bielinski eût vécu plus longtemps, il eût sûrement adhéré au programme slavophile. Il y a dans cette phrase une forte idée. Conclusion de mon paradoxe. On me dira, vous voulez donc nous faire croire que chaque Russe qui s'est assimilé au communard à un point de vue européen deviendra par cela même un conservateur en Russie? Vous allez trop loin. Ce serait une exagération que de risquer des conclusions pareilles. Non, je voulais faire tout simplement observer que même si l'on prenait l'opinion que l'on me prête dans son acception la plus littérale, elle contiendrait encore une parcelle de vérité. J'ai peut-être, inconsciemment, une foi trop grande en un sentiment russe ininterrompu, en la perpétuelle vitalité de l'âme russe. Je veux bien que ce soit une exagération encore, une suite de mon paradoxe. Mais voici la conclusion que je désirais vous soumettre. C'est encore un fait et une conséquence du fait. Nous avons déjà dit que les Russes, dès qu'ils entrent en contact avec l'Europe, se montrent des radicaux d'extrême gauche. Je ne peux pas affirmer que les 9/10 d'entre eux agissent ainsi. Ne chicanons pas sur les proportions. J'insiste seulement sur ce point, que les libéraux russes sont beaucoup plus nombreux que les non-libéraux. Non que je nie l'existence de ces derniers. Certains même sont devenus célèbres, et leur antilibéralisme ne se manifestait pas en attaquant la civilisation européenne. Bien au contraire, ils en étaient si fort entichés qu'ils en venaient à perdre leur dernier sentiment russe, leur propre personnalité, leur idiome. Ils changeaient aux besoins de patrie, et s'ils ne prenaient pas une autre nationalité, du moins plusieurs générations d'entre eux résidaient-elles obstinément en Europe. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'ils devenaient des hommes d'extrême droite et de terribles conservateurs tout à fait européanisés. Quelques-uns abandonnaient leur religion pour se faire catholiques. N'était-ce pas là le fait d'enragés conservateurs d'extrême droite? Oui, mais conservateurs en Europe, ils ne tardaient pas à nier la Russie, à se transformer en ennemis de la Russie. Ma conclusion, c'est qu'un Russe ne peut pas devenir un vrai Européen sans se muer en véritable ennemi de son pays d'origine. Est-ce cela qu'espéraient ceux qui ont percé la fenêtre? Est-ce cela qu'ils avaient vu? Nous avons donc deux types d'occidentalisés. L'Européen Bielinski, lequel, en fin de compte, fut plutôt, malgré lui, hostile à l'Europe et se révéla suprêmement russe. Et l'Européen Gagarine, un prince de vieille race qui, lorsqu'il s'occidentalisa, jugea nécessaire de devenir non seulement catholique, mais encore jésuite. Lequel de ces deux hommes s'est montré le meilleur ami de la Russie? Lequel des deux est vraiment resté russe? Cela ne confirme-t-il pas mon paradoxe? Que disais-je en effet? Que ceux des nôtres qui sont socialistes et communards en Europe n'ont absolument rien d'européen et finiront toujours par se montrer plus tard d'excellents Russes. Et qu'un Russe ne peut se transformer réellement en Européen qu'en cessant absolument d'être russe. La Russie est donc un pays qui ne ressemble en rien à l'Europe, qui a tort de se moquer des tendances révolutionnaires des Russes. Comment voulez-vous que la Russie se passionne pour une civilisation qu'elle n'a pas faite? Elle ne sera pas hostile à cette civilisation pour des raisons de Hun et de Tartare, à cause de son désir de démolir, mais pour des motifs que peu d'entre nous comprennent et que ceux qui les comprennent gardent pour eux. Nous sommes peut-être des révolutionnaires par conservatisme, si l'on peut ainsi dire. Mais j'ai parlé d'un état d'esprit transitoire, et voici que reparaît sur la scène l'éternellement insoluble question d'Orient. Chapitre 3. La question d'Orient. grâce à cette question de Rian, lequel d'entre nous n'a pas connu, cet an dernier, des sensations extraordinaires? Quel bruit elle a fait dans les journaux! Quelle confusion dans telle cervelle! Quel cynisme dans telle conversation! Quels bons et honnêtes frissons dans tel cœur! Quel vacarme dans tel milieu juif! Une seule chose est vraie, il n'y a rien à craindre, bien que tant d'alarmistes s'efforcent de nous épouvanter. On est même surpris de voir tant de poltrons en Russie. Je crois que beaucoup parmi eux sont des poltrons de parti pris. Mais il est sûr qu'ils se sont trompés d'époque. Il n'est même plus temps de trembler pour eux. Les plus fougueux poltrons du parti pris sauront à quel moment s'arrêter et n'exigeront pas le déshonneur de la Russie. Nous ne verrons pas se renouveler l'histoire des ambassadeurs que le tsar Ivan le Terrible envoya à Étienne Báthory, avec la consigne de tout faire pour obtenir la paix, même s'il s'agissait de recevoir des coups. L'opinion publique s'est prononcée. Nous ne sommes pas d'humeur à nous laisser battre. Le prince Milan de Serbie et le prince Nicolas de Monténégro, pleins d'espoir en la Providence et sûrs de leurs droits, ont marché contre le sultan. Et quand il lira ces lignes, il se peut bien que le public connaisse déjà la nouvelle d'un grand combat, voire d'une bataille décisive. Les événements vont se précipiter à présent. La lenteur, les hésitations des grandes puissances, les subterfuges diplomatiques de l'Angleterre refusant d'adhérer aux conclusions de la conférence de Berlin, la révolte qui a éclaté à Constantinople, l'explosion du fanatisme musulman et enfin cet horrible massacre de 60 000 Bulgares paisibles, vieillards, femmes et enfants, ont rendu la guerre inévitable. Les Slaves sont pleins d'espérance. Ils disposent, toute force mise en ligne, de près de 150 000 soldats, de troupes régulières pour les trois quarts. Mais l'essentiel, c'est l'esprit des belligérants. Tous vont de l'avant, sûrs de la victoire. Chez les Turcs, au contraire, il règne une grande confusion qui ne tarderait pas à se changer en panique au premier revers. Si l'Europe n'intervient pas, les Slaves vaincront sûrement. On prétend que l'Europe interviendra, mais la politique européenne est, actuellement, assez flottante et irrésolue. Il semble n'y avoir là qu'un désir de retarder les solutions nécessaires et décisives. On veut pourtant que l'alliance des trois grandes puissances orientales se maintienne. Les entrevues personnelles des trois empereurs continuent. L'Angleterre, isolée, cherche des alliés. Les trouvera-t-elle? C'est problématique. En tout cas, si elle en trouve, ce ne sera pas en France. En un mot, l'Europe assiste encore à la lutte des chrétiens contre les musulmans sans s'y mêler. Maintenant, il faudra voir ce qui se passera lors du partage de l'héritage. Mais y aura-t-il seulement un héritage? En cas de victoire des Slaves, l'Europe permettra-t-elle à ces derniers de jeter carrément l'homme malade à bas de son lit? Il est imprudent de le supposer. N'essaiera-t-on pas plutôt de soumettre le valétudinaire à une nouvelle cure? Il se pourrait alors que l'effort des Slaves victorieux ne fût récompensé qu'assez maigrement. La Serbie est partie en guerre en se fiant à sa propre force, mais elle sait que son sort définitif dépend entièrement de la Russie. Elle n'ignore pas que c'est la Russie qui la tirera d'affaire en cas d'échec ou l'aidera, dans l'hypothèse d'un triomphe, à jouir des fruits de sa victoire. Elle le sait et compte sur la Russie. Mais il ne peut lui avoir échappé que toute l'Europe regarde la Russie avec méfiance et que notre situation est assez difficile. Comment la Russie agira-t-elle? Pour un Russe, la réponse ne peut faire l'ombre d'un doute. La Russie agira honnêtement. Que le premier ministre anglais dénature les faits devant le Parlement et déclare officiellement que le massacre des 60 000 Bulgares est l'œuvre non pas des bachibouzouks turcs, mais bien d'autres Slaves, que tout le Parlement accepte cette explication, C'est possible. Mais rien de pareil ne peut se produire en Russie. On me dira. La Russie ne peut aller contre ses propres intérêts. Mais où résident les intérêts de la Russie? La Russie aura toujours avantage à se sacrifier plutôt que de trahir la justice. La Russie ne peut pas s'écarter de la grande idée qu'elle a toujours jusqu'à présent suivie sans dévier. Cette idée, c'est l'union universelle des Slaves sans violence, sans annexion, rien que pour le bien de l'humanité. Mais la Russie a-t-elle généralement servi ses intérêts véritables? N'a-t-elle pas souvent travaillé pour autrui avec un désintéressement qui aurait dû étonner l'Europe? Toutefois, l'Europe ne croira pas à l'abnégation de la Russie. On se figurera que notre pays commet une maladresse ou cache un désir de pécher en nos troubles. Mais il n'y a pas à s'inquiéter de ce qu'on pensera en Europe. C'est dans l'abnégation de la Russie que réside toute sa force et tout son avenir. Il est seulement fâcheux qu'on la dirige parfois si mal. Chapitre 4. L'entendement utopique de l'histoire. Pendant un siècle et demi, depuis Pierre le Grand, nous n'avons fait qu'essayer de communier avec toutes les civilisations humaines. Nous nous sommes imprégnés de leur histoire, de leur idéal. Nous nous sommes habitués à aimer les Français, les Allemands, tous les peuples, comme s'il se fût agi de frères. Les autres ne nous ont jamais aimés et n'ont jamais eu le désir de nous aimer. À l'œuvre de Pierre le Grand, nous avons gagné une largeur de vue que l'on ne retrouve chez aucun peuple ancien ou moderne. La Russie d'avant Pierre était forte, bien qu'elle se fût unifiée lentement, et elle comprenait qu'elle portait en elle une chose précieuse et unique, l'orthodoxie, qu'elle était la gardienne de la vérité du Christ, de l'image vraie du Christ, qui s'effaçait dans l'esprit de tous les autres peuples. Cette vérité éternelle, dont la Russie était la dépositaire, semblait délivrer sa conscience du souci de toute autre civilisation. On croyait alors, à Moscou, que tout contact avec l'Europe ne pouvait que porter préjudice à l'esprit russe, en le pervertissant, et dénaturer même l'idée russe et l'orthodoxie au point de pousser la Russie à sa ruine morale. Ainsi, la Russie, en se repliant sur elle-même, était sur le point de faire tort à l'humanité entière. Elle semblait résolue à garder pour elle seule son orthodoxie et à fermer ses portes à tout élément étranger, comme ces vieux croyants qui ne mangeraient jamais dans de la vaisselle qui aurait servi à un autre être humain et qui considèrent comme un devoir saint l'obligation de posséder chacun sa tasse et sa cuillère dont aucune autre créature vivante ne peut faire usage. Et ma comparaison est strictement juste. Dès la réforme de Pierre le Grand, les vues s'élargirent, et c'est là toute l'œuvre de Pierre. En quoi consiste cet élargissement de vue? Je ne fais pas allusion à l'instruction. Il n'est pas question davantage d'une renonciation aux principes moraux particuliers qui font la force du peuple russe. Je veux parler de cet amour fraternel que, seuls au milieu des nations, nous portons aujourd'hui aux autres races. Il y a chez nous un besoin d'être utile à toute l'humanité, parfois même au préjudice de nos intérêts propres. C'est depuis longtemps que nous nous sommes réconciliés avec toutes les civilisations, que nous savons excuser, ce qui est l'idéal propre de chacune, même quand cet idéal est en contradiction avec le nôtre. Nous avons une faculté spéciale qui nous permet de comprendre à fond chaque individualité nationale européenne et de distinguer ce qui peut être vrai dans sa manière de voir particulière en faisant abstraction des erreurs qui entachent cette vérité. C'est pour nous encore un vrai besoin que d'être avant tout juste et de rechercher partout la dite vérité. Il y a peut-être là une première application de notre orthodoxie mise au service de l'humanité entière. l'idée russe moscovite a trouvé sa direction. C'est ainsi que nous avons conscience de notre importance mondiale, de notre rôle dans notre espèce. Et nous ne pouvons pas ne pas reconnaître que ce rôle diffère de celui de toutes les autres races. Ailleurs, chaque individualité nationale ne vit que pour soi-même, tandis que nous voulons devenir les serviteurs de tous dans l'œuvre de l'universelle réconciliation humaine. Je crois qu'il n'y a là rien de honteux, que c'est assez grand au contraire. Qui veut être plus haut que tous dans le royaume de Dieu saura se faire le serviteur de tous. Après Pierre le Grand, le premier acte de notre rôle devait naturellement aboutir à l'union de tout le monde slave sous l'aile de la Russie. Cette alliance ne devait pas venir de la force, car notre but n'était aucunement de détruire les personnalités nationales slaves au profit de la Russie, mais bien de les remettre debout pour le plus grand bien de l'Europe et de l'humanité, en leur permettant de prendre un peu de repos après leurs souffrances séculaires. Il fallait faire un faisceau de toutes ces forces et apporter ainsi notre obole au trésor de l'humanité. Oh, on peut se moquer de toutes nos vieilles rêveries au sujet de la prédestination de la race russe. Mais dites-moi si les Russes n'ont pas toujours désiré la résurrection de toutes les nationalités slaves, et pas le moins du monde dans l'intention d'accroître la puissance politique de la Russie, comme l'Europe nous en soupçonne. Ces vieilles rêveries ne s'excusent-elles pas alors d'elles-mêmes? C'est en vertu de la même idée que nous affirmons que Constantinople, tôt ou tard, doit être à nous. Quel sourire ironique se dessinerait sur les lèvres autrichiennes et anglaises si on nous entendait, après toutes ces rêveries, exprimer un vœu aussi pratique. Ah! Ce ne serait donc pas faire une annexion que s'adjoindre Constantinople et son port de la Corne d'Or, le premier point stratégique du monde? Oui, Constantinople et la Corne d'Or seront à nous, mais non par la violence. L'événement arrivera de lui-même, parce qu'il doit arriver. Et l'heure en est proche, comme on peut s'en apercevoir déjà. On dirait que la nature elle-même le veut. On croit en Europe à un testament de Pierre le Grand. Ce n'est qu'un papier apocryphe fabriqué par des Polonais. Si Pierre, au lieu de fonder Pétersbourg, avait eu réellement l'idée de s'emparer de Constantinople, il n'aurait pas manqué de force pour vaincre le sultan. S'il ne tente rien de ce côté, ce fut parce que l'entreprise était encore inopportune, pouvait même causer la ruine de la Russie. Si, dans le Pétersbourg finnois, nous n'avons pu échapper à l'influence des Allemands, voisins utiles, certes, mais qui paralysaient fortement le développement russe, comment aurions-nous pu, dans Constantinople, alors encore puissante par la civilisation, résister à l'ascendant des Grecs, qui avaient bien plus d'affinités avec nous que les Allemands, lesquels ne nous ressemblent en rien? Ces Grecs étaient nombreux, insinuants, flatteurs, auraient su entourer le trône, seraient devenus instruits et même savants bien avant les Russes, et n'auraient pas manqué de charmer Pierre le Grand, n'eussent été que par leur connaissance de tout ce qui touchait à la marine. Oui, Pierre eût été séduit, comme sans doute aussi ses premiers successeurs. Les Grecs eussent accaparé politiquement la Russie. Ils l'eussent fait dévier vers les chemins d'Asie, vers des horizons fermés, et la Russie en eût souffert à tous les points de vue. Le puissant grand russe fut demeuré abandonné dans son or lugubre et neigeux, et eut peut-être fini par se séparer de Byzance régénérée. Tout le sud de la Russie eût été submergé sous le flot grec. L'orthodoxie même aurait pu se scinder en deux églises. Il y eut eu deux mondes distincts, Constantinople, revivifiée, et le vieux monde russe. En un mot, l'entreprise était au plus haut degré intempestive. Maintenant, les circonstances sont tout autres. Aujourd'hui, la Russie a été longtemps en contact avec l'Europe. Elle s'est instruite Et l'essentiel, c'est qu'elle est consciente de sa force et a compris où cette force résidait. Elle sait que Constantinople doit être à nous, mais non plus pour jouer le rôle de capitale de la Russie. Il y a 200 ans, s'il en eût fait la conquête, Pierre n'eût pu faire autrement que d'y transporter le siège de son empire, ce qui eût été désastreux, parce que Constantinople n'est pas en Russie et ne peut pas se russifier. Aujourd'hui, Constantinople peut devenir nôtre, pas plus qu'autrefois comme capitale de la Russie, mais comme capitale du panslavisme, ainsi que tant de gens le rêvent. Le panslavisme sans la Russie s'épuisera dans sa lutte contre les Grecs, et il est de toute impossibilité que les Grecs, à l'heure qu'il est, héritent de Constantinople. Ce serait une acquisition disproportionnée, hors de tout rapport avec leur importance ethnique. Avec la Russie à la tête du panslavisme, tout change, mais les résultats seront-ils bons? Telle est la question. Ne serait-ce pas, faite sur les Slaves, une conquête politique dont nous n'avons nullement besoin? Au nom de quel droit moral la Russie pourrait-elle demander Constantinople? Au nom de quel principe supérieur lui serait-il loisible de l'exiger de l'Europe? Mais au nom de sa situation de gardienne de l'orthodoxie. Voilà le rôle auquel elle est prédestinée, rôle symbolisé par l'aigle constantinopolitain à deux têtes qui figure sur les armes de la Russie. Il n'y a rien là qui menace les différents peuples slaves dans leur indépendance, rien qui menace les Grecs. En un mot, aucune des nations orthodoxes. La Russie est leur protectrice naturelle à toutes, mais non leur maîtresse. Si elle devenait un jour leur souveraine, ce ne serait que par leur acclamation, et ces nations conserveraient encore, avec une certaine indépendance, tout ce qui a fait leur personnalité. Si bien qu'à une telle alliance pourrait plus tard adhérer tous les peuples slaves non orthodoxes qui verraient à quel point leur liberté serait respectée sous la tutelle russe, éviteraient ainsi les luttes intestines où ils s'épuiseraient sûrement, au cas où ils s'affranchiraient autrement des Turcs ou des Européens occidentaux, leurs maîtres actuels. « Pourquoi jouer sur les mots ? » m'objectera-t-on encore. Qu'est-ce que cette foi orthodoxe qui aurait seule le privilège d'unifier les peuples? Et n'entendez-vous former qu'une confédération dans le genre de celle des États-Unis d'Amérique? Je répondrai, non, ce ne sera pas seulement une union politique, et son but ne sera pas un but de conquête et de violence comme on se le figure en Europe. Il ne s'agira pas non plus d'une sorte de christianisme officiel auquel personne ne croit déjà plus, en dehors des gens de la plus basse classe. Non, ce christianisme sera une nouvelle élévation de la croix du Christ et une résurrection de la vraie parole du Christ. Ce sera une leçon pour les puissants de ce monde dont l'ironie a toujours triomphé, dédaigneuse des velléités de réconciliation humaine, incapable de comprendre que l'on puisse réellement croire en la fraternité des hommes, en une union basée sur le principe que l'aide de chacun est due à toute l'humanité, en la rénovation et la régénération de tous les êtres de notre espèce, revenus enfin à la vraie morale du Christ. Et si l'on veut voir là une simple utopie, je réclame ma part des railleries et demande tout le premier à être traité d'utopiste. Mais, me dira-t-on de nouveau, n'est-ce pas déjà une utopie que d'aller se figurer que l'Europe permettra à la Russie de se mettre à la tête des Slaves pour entrer dans Constantinople? Croyez-vous que ce ne soit qu'un rêve? Sans parler de ce fait que la Russie est forte, et peut-être beaucoup plus qu'elle ne l'imagine elle-même. N'avons-nous pas vu l'hégémonie européenne passer d'une puissance à une autre dans ces 10 dernières années, l'une de ces puissances cruellement éprouvées et l'autre transformée en un formidable empire? S'il en a été ainsi, qui peut prédire la solution de la question d'Orient? Comment désespérer après cela du réveil et de l'union des Slaves? qui peut se vanter de connaître les voies divines ? Chapitre 5. Encore au sujet des femmes. Presque tous les journaux sont déjà revenus à des sentiments de sympathie pour les Serbes et les Monténégrins. Dans la société, aussi bien que dans le peuple, on s'enthousiasme à la nouvelle de leur succès. Mais les Slaves ont encore besoin de secours. On sait de façon assez sûre que les Autrichiens et les Anglais aident les Turcs en sous-main. On leur fournit de l'argent, des armes, des obus, voire des hommes. L'armée turque contient une foule d'officiers étrangers. La puissante flotte anglaise ne bouge pas des eaux de Constantinople, pour des raisons politiques. L'Autriche a déjà une armée immense toute prête, prête à toute éventualité. La presse autrichienne fulmine contre les Serbes révoltés et la Russie. Il est certain que si l'Europe est peu favorablement disposée envers les Slaves, cela vient de ce que les Russes, aussi, sont des Slaves. Autrement, les journaux autrichiens ne s'inquiéteraient pas tant des Slaves, quantité négligeable auprès de leurs forces militaires, et ne les auraient pas comparés aux Piémontais. C'est pour cela que la société russe doit encore secourir les Slaves. Il faut de l'argent. Le général Tchernaïev a déjà fait savoir à Pétersbourg que l'état sanitaire est médiocre dans l'armée serbe. De plus, il y a pénurie de médecins. Les blessés sont mal soignés. À Moscou, le comité slave a fait un appel énergique à la Russie et a assisté au grand complet à la cérémonie religieuse célébrée à l'église serbe pour prier le ciel d'accorder la victoire aux armes serbes et monténégrines. À Pétersbourg, les manifestations publiques recommencent en même temps que les souscriptions. Le mouvement prend de l'extension, bien que nous soyons en pleine morte saison d'été. Je croyais avoir fini mon carnet. J'en corrigeais déjà les épreuves quand une jeune fille sonna à ma porte. Elle venait de préparer un examen assez difficile. Elle appartient à une famille plutôt riche, n'a donc pas d'inquiétude d'avenir, mais se préoccupe fort de son développement intellectuel. Elle venait chez moi pour me demander conseil. Que devait-elle lire? Sur quel point devait-elle diriger ses études? Quand elle me visitait, elle demeurait peu de temps, ne me parlait que de ce qui la concernait spécialement, avec modestie et confiance. Il était impossible de ne pas deviner en elle un caractère des plus énergiques et des plus décidés, et je n'ai pas été trompée par sa timidité apparente. Cette fois, elle entra et dit, sans préambule, « On a besoin de garde-malades en Serbie. J'ai pris la résolution d'aller soigner, là-bas, les blessés. Qu'en pensez-vous ? » Elle me regarda avec une sorte de confusion, mais je lus clairement dans ses yeux que sa décision était prise, et bien prise. Elle n'avait besoin que de quelques paroles réconfortantes. Je ne suivrai pas notre causerie dans tous ces détails. L'anonymat de mon interlocutrice pourrait ainsi être trahi par quelques traits particuliers. Je ne donne que l'essentiel. Je fus pris de pitié pour elle. Elle est si jeune. Lui faire peur en lui parlant des horreurs de la guerre, du typhus dans les hôpitaux, je n'avais pas à y songer. C'eût été jeter de l'huile sur le feu. Elle était enflammée du désir de se sacrifier, d'accomplir une bonne œuvre. Il n'y avait là aucun enivrement de soi-même, aucune vanité. Elle ne voulait que soigner les blessés, être utile. Mais vous ne savez pas soigner des blessés. Pardon, je me suis déjà renseignée, j'ai été au comité. On a 2 semaines pour faire son apprentissage. En arrivant, j'apprendrai comme une autre. Écoutez, lui dis-je. Je ne veux pas vous effrayer, vous dissuader, mais réfléchissez à vos paroles. Vous n'avez pas été élevé dans un milieu qui vous préparera à ce que vous voulez accomplir. Vous n'avez vu que des gens du monde, et dans des circonstances où ils n'enfreignaient jamais les lois du bon ton. Mais ces mêmes hommes, à la guerre, entassés dans un petit espace, excités, tourmentés, surmenés, deviennent tout différents. Supposez que vous avez passé une nuit entière auprès des malades. Vous ne tenez plus debout, et voici que le médecin, un homme excellent, mais éreinté lui-même, un homme qui vient de couper des bras et des jambes, se tourne tout à coup de votre côté et vous dit « À quoi servez-vous ici? Vous ne fichez rien, vous avez pris un engagement, il faut le remplir, etc. » Cela ne vous sera-t-il pas pénible à supporter? Et pourtant, il faut prévoir le cas. Et je ne prends qu'un exemple insignifiant. La réalité est parfois cruellement inattendue. Enfin, si ferme que vous soyez, ne craignez-vous pas d'être un jour ou l'autre inférieur à votre tâche? Et si vous vous évanouissez devant telle mort horrible ou telle blessure, telle amputation, ces accidents-là sont involontaires. Si un médecin me dit que je ne sers à rien, je saurai comprendre qu'il est irrité et fatigué. Il me suffira d'être certaine que je ne suis pas coupable et que j'ai fait tout le possible. Mais comment pouvez-vous répondre ainsi de vous, étant si jeune? Pourquoi voulez-vous que je sois si jeune que ça? J'ai déjà 18 ans, je ne suis plus une gamine. » En un mot, elle fut inébranlable. Si je l'avais vue seulement attristée, je lui aurais refusé toute approbation. « Eh bien, lui dis-je à la fin, que Dieu vous conduise, mais promettez, quand tout sera fini, de revenir au plus vite. » « Oh, naturellement. Et mon examen, on ne le passera pas pour moi. » Elle est partie là-dessus, avec un visage rayonnant, et dans une semaine, elle sera là-bas. Dans l'article sur George Sand, j'ai écrit déjà quelques mots sur ces caractères de jeune fille qui me passionnaient si fort dans les romans du grand écrivain. Eh bien, je retrouve en celle dont je viens de parler la même nature droite, honnête, inexpérimentée, certes, mais armée de cette fière chasteté que rien ne peut salir, pas même le contact avec le vice. Il y a chez elle un vrai besoin de sacrifice et la conviction que le devoir de chacun de nous est de réaliser tout de suite un peu de ce bien que l'on attend de tous les hommes. Il est vrai que cette conviction n'existe, en général, malheureusement, que dans des âmes juvéniles très innocentes. L'essentiel est, comme je le répète, que l'on ne trouverait en elle ni présomption ni fierté du sacrifice accompli, mais uniquement la passion de bien faire. Après son départ, je songeais involontairement que nous avons le devoir d'insister pour que la femme n'ait plus rien à désirer au point de vue de l'instruction supérieure, car la femme aujourd'hui réclame et mérite sa part dans l'œuvre commune. Je pense que les pères et les mères devraient faire l'impossible pour obtenir ce résultat, s'ils aimaient vraiment leurs enfants. Seule, en effet, la science supérieure a, en elle, assez de charme et de force pour apaiser l'inquiétude qui se révèle maintenant chez nos femmes. La science peut seule répondre aux questions qui les troublent, raffermir leurs esprits, prendre la direction de leur imagination un peu vagabonde. Quant à arrêter cette jeune fille, non seulement je ne l'ai pas pu, mais j'ai songé qu'elle tirerait peut-être un profit de son voyage. Ce n'est pas au monde livresque qu'elle va avoir affaire, c'est la vie vraie qui l'attend, l'unique source de réelle expérience. Sa pensée et ses opinions vont s'élargir. Elle aura plus tard un cher et beau souvenir qui durera autant qu'elle-même. Elle apprendra à aimer la vie. Ce n'est pas elle qui se lassera de l'existence sans avoir vécu, comme cette malheureuse Pissareva dont j'ai parlé ailleurs.